Margot Dumas, que nous avons l'immense plaisir d'inviter à cet atelier. Bénédicte Savoie, donc, qui est sa co-directrice de thèse, Felicity Bodenstein et moi-même. Donc, Margot Dumas a fait ses études à Sciences Po et elle est aujourd'hui doctorante en histoire à Paris Descartes. On va peut-être enlever. C'était Tigrou. Aujourd'hui, doctorante à l'université Paris Descartes. Paris Diderot, pardon. Et en co-direction avec Bénédicte Savoie. Et elle travaille sur ce qui est très intéressant pour nous et suffisamment rare pour être mentionné, non pas les tableaux, dessins, sculptures, objets d'art, mais le mobilier spolié. Et c'est en ce sens que nous sommes particulièrement ravis d'inviter Margot Dumas, qui va nous parler aujourd'hui de ses méthodes de travail pour retracer les mouvements du mobilier spolié entre 1940 et 1957. Margot, on te laisse la parole. Merci.
Eh bien, écoutez, merci Léa et Felicity, et du coup Bénédicte Savoie aussi pour l'invitation à présenter mon travail de thèse. Alors, on va beaucoup moins voyager avec moi. Désolée. Et donc, je suis vraiment contente d'être là pour vous parler vraiment du tout début de mes recherches sur les spoliations et le pillage de mobilier pendant la Seconde Guerre mondiale. Et comme Léa l'a dit, je vais tenter de vous expliquer comment je cherche à retracer les mouvements de ce mobilier, donc volé pendant l'occupation allemande à Paris, jusqu'au processus de restitution après la guerre. Donc, pour ça, je vais essayer de découper, d'être méthodique et découper ma présentation en 5 points. Donc, d'abord, un point sur le contexte des spoliations de mobilier, qui est parfois plus mal connu que juste les spoliations d'œuvres d'art. Ensuite, les questions que cette organisation entraîne, et notamment mes questions de recherche que je vais essayer de, auxquelles je vais essayer de répondre pendant ma thèse. Ensuite, je vais vous présenter les fonds d'archives sur lesquels, enfin, le fonds d'archives sur lequel je travaille, qui est assez mal connu et qui est assez émouvant, donc je suis assez contente de pouvoir vous présenter des choses. Et enfin, enfin, c'est le troisième point. Le quatrième, c'est du coup, ce fonds, comment il me permet d'avoir des pistes pour comprendre les translocations de mobilier à cette période. Et enfin, un dernier point, plus pour les historiens de l'art qui sont ici, comment on peut aussi partir des objets plutôt que des archives pour essayer de reconstituer le parcours de ce mobilier, de ces objets d'art. Pour donc les organisations nazies en charge des spoliations et des pillages, aujourd'hui, surtout pour les personnes qui sont venues au séminaire les fois précédentes et les personnes qui connaissent le fonctionnement, on connaît assez bien aujourd'hui dans l'opinion publique la question des spoliations d'œuvres d'art et la fascination de Göring et d'Hitler pour les peintures. Mais du coup, on connaît beaucoup moins la question du mobilier, des spoliations de mobilier, et surtout le pillage systématique qui était opéré par les administrations nazies du mobilier, des logements de personnes juives par les nazis en Europe de l'Ouest. Donc la première organisation que vous connaissez sans doute et dont vous avez peut-être entendu parler, c'est l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, donc le RR, qui est connu pour les spoliations d'œuvres d'art et de biens culturels et qui était actif en France à partir de 1940. Pourquoi ça m'intéresse pour les collections de mobilier? C'est parce que, vu qu'il touchait souvent les grands collectionneurs et les galeristes, par exemple, ou les marchands d'art, c'était aussi des gens qui avaient des collections de mobilier et donc ont été touchés par cette spoliation-là. Et moins connu, mais toujours sous la houlette d'Alfred Rosenberg, qui dirigeait le RR, il y a la Dienststelle Westen. Donc, c'est un rapport d'Annette Vivorka et de Florian Azoulay, et puis le travail de Sarah Gainsburger, qui ont mis en lumière cette administration, notamment dans l'ouvrage de Sarah Gainsburger, qui s'appelle « Images d'un pillage » et duquel je tire les photos que vous voyez là. Donc, la première, c'est en fait le mobilier pillé à Paris qui est mis dans les trains en direction de l'Allemagne. Je vous expliquerai un peu plus par la suite comment ça se passait. Et la deuxième photo avec toutes les casseroles que vous voyez là, en fait, dans les camps d'internement parisiens, les prisonniers étaient chargés de trier les résultats de ces pillages à grande échelle. Et donc, vous aviez des pièces qui étaient dédiées à certains types d'objets. Donc là, vous aviez la pièce cuisine, visiblement, mais vous avez plein d'autres photos avec la porcelaine, des lits, des matelas, enfin, tout ce qu'on pouvait trouver dans un logement parisien dans les années 40. Donc la Dienstellewesten, elle est créée en avril 42 pour gérer le processus de la Möbel Aktion qui avait été lancée un peu plus tôt dans l'année. Alors ce processus, comme je l'ai dit, ça consistait à vider les logements des personnes juives qui étaient internées, déportées ou qui avaient fui. Et ce processus était actif en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en France. Alors, le but, c'était à l'origine de permettre aux Allemands qui voulaient s'installer dans les pays occupés de l'Est de pouvoir se meubler. Mais face au bombardement allié, finalement, ce mobilier, il a une nouvelle destination. Et là, l'objectif, c'était de permettre de remeubler les sinistrés allemands victimes de bombardement. On considère qu'à Paris, la Dienstellewesten, elle est responsable du pillage de 38 000 logements, au moins. Et quand je parle de pillage, c'est vraiment, il faut imaginer l'ensemble du mobilier et des objets du quotidien. Annette Vivorca, dans son rapport pour la commission Matteoli, elle parle même des prises de courant qui sont arrachées. Parfois, il y a des témoignages où c'est les parquets, des logements qui sont enlevés. Donc vraiment, c'était tout. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que ce pillage est lié idéologiquement à l'extermination des Juifs. Par exemple, en Belgique, la direction de la Dienstellewesten demande en décembre 1943 plus d'arrestations de personnes juives pour répondre aux besoins de meubles dans certaines parties de l'Allemagne. Donc, toutes ces informations, ça fait se poser plusieurs questions. Donc, c'est... Déjà, la première grande question, c'est la question logistique de la spoliation. Donc, quand on parle de 38 000 logements rien qu'à Paris, il y a toute une organisation qui est mise en place. Et la question, c'est de savoir où sont passés ces objets, par quel intermédiaire, quel moyen de transport. Et aussi, la question qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de la distribution en Allemagne, sur laquelle on a peu d'informations. Comment la réception de tous ces objets se passe et comment c'est distribué à des familles allemandes qui en font la demande ou non. Pour le moment, on ne sait pas. En termes logistiques, il faut imaginer, il y a un rapport de la Dienstellewesten d'août 1944 qui parle de 1 079 373 mètres cubes qui sont déménagés, qui sont arrivés en Allemagne, c'est énorme. Donc ça nécessite une organisation énorme aussi, j'imagine, sur laquelle on n'a pas de traces ou très peu. Je pars des dossiers de restitution que je vais vous présenter tout de suite, bientôt, pour étudier aussi comment la perte est vécue par les victimes de ce pillage, notamment à Paris. Donc, en travaillant sur les dossiers de restitution, dans lesquels on trouve des inventaires et de la correspondance qui nous renseignent sur l'intérieur de ces personnes avant le pillage, avec quoi ils vivaient, comment, souvent, parfois on a des photos, on a des dessins, donc c'est assez émouvant la mémoire, en fait, de leur logement qu'ils ont perdu, qu'ils retrouvent vide, et avec les courriers, comment ils vivent cette perte et l'espoir de retrouver certains objets. Voilà. Donc ça, c'est des extraits du fonds d'archives que j'étudie, qui se trouve aux Archives nationales. C'est un fonds qui est assez spécifique et qui concerne en fait les demandes de restitution de mobilier faites dès septembre 1944 jusqu'en 1946. Donc je vais revenir un peu sur l'histoire de ce processus de restitution qui arrive assez tôt après la libération de Paris. Donc c'est assez étonnant. Aussi encore des chiffres. Dans ce fonds, j'ai comptabilisé à peu près 15 000 dossiers, donc ce qui est quand même beaucoup pour des demandes qui arrivent assez tôt, je le répète. Alors pourquoi des demandes de restitution dès 1944 ? En fait, tout simplement, l'administration française se retrouve à la Libération avec un stock de meubles qui n'a pas été encore expédié en Allemagne, tout simplement. Et donc, on sépare les meubles non identifiables et d'usage courant qu'on distribue aux sinistrés de guerre. Et les meubles identifiables ou d'usage non courant, là, on lance un appel dans la presse pour que les personnes victimes de pillage viennent visiter, donnent en fait à l'administration française un inventaire de ce qu'ils ont perdu lors du pillage et puissent venir visiter ces stocks pour pouvoir éventuellement identifier un objet le récupérer, en avoir la restitution. Alors, je n'ai pas retrouvé encore l'article de presse, mais c'est souvent cité dans les courriers. Et là, par exemple, dans la lettre de Mademoiselle Reiter, vous avez, elle dit, à la suite de l'annonce parue dans les journaux, voilà, au sujet des biens juifs et autres déménagés par les Allemands. Donc souvent, on a du coup cette trace de cet article que je n'ai pas encore retrouvé. Voilà. Mais visiblement, qui a touché quand même beaucoup de... Enfin, qui a été envoyé de façon assez massive. Donc, ensuite, les personnes font un dossier, versent un inventaire. Il y a deux choses qui sont essentielles pour la constitution du dossier. C'est l'inventaire et un certificat de spoliation qui est donné souvent par la concierge ou le gérant de l'immeuble qui témoigne en fait que oui, les Allemands sont bien venus vider l'appartement à telle date. Tout simplement parce que les services de restitution pour organiser les visites des différents lieux de dépôt partent du principe que les personnes qui sont spoliées le plus tard auront plus de chances de retrouver un objet. Donc, elles trient les dossiers, les autorités, en fonction de la date de spoliation. Et les premières personnes qui ont le droit de visiter ces dépôts sont celles qui ont été spoliées le plus tard, avant la libération de Paris. Donc là, à côté, ici, vous avez un bon en fait, de visite qui est envoyé par les autorités qui permettent à la personne d'entrer. C'est à la Foire de Paris ou au Palmarium pour voir les objets qui restent. Alors, en plus, sur cette période entre 1944 et 1946, il y a plusieurs visites qui peuvent être organisées parce qu'au fur et à mesure, on retrouve en fait d'autres lieux de stockage en province, en fonction de l'avancée des armées alliées et que des villes sont libérées, on trouve d'autres lieux de stockage et aussi des trains qui sont arrêtés et dans lesquels on a des meubles et des objets courants. Et donc, on les rapatrie à Paris pour que d'autres personnes puissent venir visiter ou les personnes qui avaient déjà visité aient une chance nouvelle en fait, de reconnaître quelque chose. Donc, on passe aux inventaires et ce qu'on peut trouver dans ces dossiers. Donc là, c'est un dossier qui est assez intéressant parce qu'on a l'inventaire et une photo de l'intérieur. Donc, dans ce dossier, il y a 5 photos de l'intérieur de Madame Grana. Et ce qui est intéressant dans celui-ci, c'est qu'elle a... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, si. Sur certains objets, elle a mis des petits numéros. Elle a collé des petits bouts de papier avec les numéros. Donc, elle a le numéro 4, 6 et le numéro 6, 8... le numéro 8, et qui renvoie à l'inventaire. Vous voyez, vous avez pour chaque objet un numéro, et donc qui correspond à ce qu'elle a collé sur la photo. Donc il y a plusieurs dossiers où il y a des choses comme ça. Donc parfois, il y a des dessins aussi qui accompagnent certains objets. Donc c'est assez émouvant parce qu'on a la mémoire, du coup, vraiment de l'intérieur et vraiment des témoignages de ce qui était... un intérieur parisien. Et ce qui est aussi très intéressant sur la question de l'intérieur et des inventaires, ce qui constituait des logements, c'est que toutes les classes sociales et toutes les zones géographiques de Paris sont représentées dans ces dossiers. Tout le monde pouvait faire une demande. Et en l'occurrence, je trouve des dossiers de grands hôtels particuliers avec plein de pièces et des inventaires qui font 20 pages. Ou parfois des inventaires qui tiennent en une page de quelqu'un qui louait juste une chambre, par exemple. Donc c'est assez émouvant et assez intéressant de voir que tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de gens se sont, ont fait la demande, ont passé le pas en fait de faire une demande et d'avoir vraiment un témoignage de plusieurs types d'intérieurs selon différentes classes sociales. Et ensuite, avec les correspondances, on se rend compte aussi que ces dossiers, c'est l'occasion pour les victimes des lois antisémites de donner un premier témoignage en fait, de leur expérience de la guerre. Souvent, on pense que pendant longtemps, les victimes du nazisme n'ont pas parlé et n'ont pas exprimé ce qu'elles ont vécu. Dans ces dossiers, très souvent, les gens qui font la demande, en fait, parlent de leur internement, de leur déportation, ou des membres de leur famille qui sont déportés. Et là, dans le dossier de Mathilde Budieu, elle parle en fait qu'elle rentre tout juste d'Allemagne où elle a été déportée et qu'elle a eu la désagréable surprise, je cite, de retrouver son logement totalement vide. Et donc vraiment, ces dossiers, c'est le premier moment pour ces personnes, de parler de leur expérience de la guerre via un canal en fait, qui n'est pas du tout fait pour ça à l'origine. Hein. C'est uniquement pour les questions de restitution de mobilier et de vider en fait, ces lieux de stockage. Mais ils s'emparent en fait, de cette opportunité pour parler de ce qu'ils ont vécu. Et donc voilà, je vous parlais du certificat de la concierge. Là, vous avez donc le certificat de la concierge de Madame Budieu, donc, ou du gérant de l'immeuble, là, en l'occurrence, qui donne la date souvent de la spoliation. Donc ça peut être plus ou moins précis. Et ce qui est intéressant, c'est que les concierges très importantes dans la vie parisienne dans les années 40 ont leurs yeux partout. Et parfois, elles donnent des témoignages qui sont bien plus fournis que juste ça. Et où elle raconte vraiment comment ça s'est passé, qui est venu. Elle donne des noms d'officiers allemands, parfois des plaques d'immatriculation, des camions de déménagement qui sont venus. Donc c'est assez intéressant. Et par ces témoignages-là, j'espère pouvoir reconstituer le fonctionnement du processus de la Meuble Action, qui en faisait partie et comment c'était aussi vécu par les personnes sur place. Qui pouvait voir tout ça. Donc, la grande question, c'est que sont devenus tous ces biens qui sont partis, finalement, de ces 38 000 logements. Et donc, la plupart, on pense, est partie en Allemagne, mais on a peu de sources qui permettent de le savoir, parce que les archives de la Dienststelle-Westen ont disparu. Du coup, c'est pour ça que ces dossiers sont très intéressants, parce que donc, les témoignages nous donnent en fait des informations sur ce qui a pu se passer. Et parfois, les personnes en fait qui rentrent chez elles à Paris et retrouvent leur logement vide font elles-mêmes l'enquête en fait de ce qui s'est passé et peuvent retrouver des documents, du commissariat aux questions juives, général aux questions juives par exemple, ou des organisations allemandes, et le verse au dossier pour appuyer leur demande de restitution. Donc, parfois, j'ai des dossiers avec des copies de correspondances pendant la période de la guerre, et par ces lettres, j'arrive à me faire une idée de ce qu'il pouvait y avoir dans ces archives de la Dienststelle-Westen et comment fonctionnait le processus en termes administratifs. Et une autre question qui est en suspens aussi, c'est est-ce que certains de ces objets sont restés en France ou est-ce que tout est parti en Allemagne? Et là, alors, il peut y avoir plusieurs choses. Déjà, il y a la question du pillage qui se pose par des particuliers sur place, les voisins, les concierges aussi, par exemple. Et là, dans le dossier de Joseph Fernand Zermati, il explique que... En fait, les Allemands sont venus vider son appartement et quand il est rentré, il a trouvé certains de ses meubles chez sa concierge. Donc, comment elle les a pris? Est-ce qu'elle les a achetés aux Allemands? Est-ce qu'elle s'est servie toute seule? Ça, on ne sait pas, mais du coup, la question se pose de s'il y avait aussi un marché en France pour les Français. pour les sinistrés français aussi, parce qu'il y avait des bombardements à Paris. Et donc, est-ce que finalement, certains de ces mobiliers aujourd'hui sont restés en France ? Et la question de la milice aussi. Il y a plusieurs dossiers où ils parlent de milices qui viennent vider les appartements. Là, c'est Vladimir Yankelevitch qui parle de hordes... nazi vichysoise. Voilà. Et on sait qu'il y a des organisations caritatives, entre guillemets, qui étaient très proches de la collaboration du gouvernement de Vichy et qui étaient aussi proches des milices. Donc, est-ce qu'eux ont récupéré certains de ce mobilier ? Et donc, la question sur si des objets sont restés en France qui finalement interpelle, c'est est-ce qu'il y avait des accords avec les autorités d'occupation ou est-ce que ça se faisait de façon sauvage un peu ? Et il y a la question du marché de l'art aussi, donc je vois qu'il y a Guitao ici et Léa, donc j'ai des photos pour elle. Donc on sait qu'entre l'ERR et le marché de l'art français, marché de l'art européen, il y avait des liens. Et on sait aussi qu'entre l'ERR et la Meuble Action, il y avait aussi des liens. Et que l'ERR reversait certains objets à la Meuble Action pour les verser sur le marché de l'art français. Par contre, on ne sait pas trop comment ça s'organisait, si vraiment ça a eu lieu ou si c'était qu'un projet. Donc ça, c'est des choses aussi à creuser. Et ensuite, les fameux quitus de vente dont vous avez entendu parler si vous étiez là la semaine dernière, avec les ventes de biens israélites. Alors, pour beaucoup de personnes juives, le logement, c'était aussi l'atelier ou la boutique, le lieu professionnel. Ce n'était pas que le foyer. Et donc, il n'y a pas ou peu de frontières entre les objets du foyer et le matériel professionnel. Par exemple, j'ai énormément de cas de tailleurs ou de docteurs. Quand ils font les demandes de restitution, il y a aussi tout leur local professionnel qui a été vidé. Et donc, dans ce cas, une des pistes qui doit être explorée, c'est donc ces fameux quitus de vente où vous voyez toute la liste de ventes de biens israélites. Alors souvent, pour la plupart, c'est des ventes qui sont demandées par l'administrateur provisoire. Mais la question, c'est d'étudier ça plus en détail pour voir si, quand ces ventes demandées par l'administrateur provisoire avaient lieu, est-ce que tout le logement était compris ou il y avait vraiment une séparation entre les biens matériels, les biens matériels professionnels ou les biens familiaux de la maison, du foyer, et si dans les administrations, il y avait une différence faite entre les biens de l'entreprise et ceux des personnes. Et donc ça, c'est toutes mes questions qui sont en suspens et qui me prennent beaucoup de temps. Et pour la question de la mémoire de la spoliation et de la mémoire des objets, il faut que je recoupe, je pense, ces demandes faites au service de restitution avec d'autres demandes faites à d'autres services. Donc dans les lettres aussi, on retrouve des traces. Les personnes disent qu'ils ont contacté plusieurs services pour obtenir la restitution de leurs biens. Donc ça peut être la préfecture de police ou la justice de paix. Et donc, comparer ces différentes demandes, ça permet d'avoir aussi une idée sur comment était vécue la spoliation. Plus on fait de demandes, plus on a envie d'avoir la restitution et que ça arrive à bout. Et surtout, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est faire des comparaisons avec les demandes qui sont faites plus tard. Finalement, est-ce que la mémoire de la spoliation et de certains objets va durer sur le temps ? Ou est-ce que, finalement, il y a des choses qu'on oublie de demander 10 ans, 15 ans après la guerre, notamment dans le cadre des demandes qui sont faites après le vote de la loi Brugge en 1957 en Allemagne. Parce que là, dans les inventaires que je trouve, et c'est ça qui est très riche avec ce fonds d'archives, c'est que les gens demandent tout. Ils ne vont pas aller au plus... à ce dont ils ont besoin maintenant, et au nécessaire. Vraiment, voilà, il y a des listes de plats à gâteaux, de linge, de caleçons, et même de ce qu'il y avait dans le garde-manger, donc 3 kilos de café. Enfin, tout est listé. Et donc, il n'y a pas de enfin, je pense qu'il n'y a pas de choses pragmatiques, en fait, ce qui se fait de qu'est-ce que j'ai besoin maintenant et dont j'ai besoin la restitution tout de suite et éventuellement le remplacement. Ou, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment tout est demandé et vraiment la mémoire est conservée. Donc, j'aimerais bien voir si ça perdure dans le temps ou pas du tout. Et pour finir, les objets. Alors ça, bon, c'est pas un objet de tous les jours. Hein. Tout le monde n'a pas ça chez soi. Les objets, c'est aussi très riche pour comprendre les mécanismes de spoliation. Et je pense que c'est important à la fois en tant qu'historien et historienne d'étudier les archives, mais aussi les objets qui sont les premiers en fait, témoins de ces translocations et les victimes aussi. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Andreas Bernhardt et Elisabeth Bartel au Stadtmuseum de Berlin et qui travaillent sur un groupe de meubles qui s'appelle les Reichsmöbel et qui ont été retrouvés dans leur collection et dont l'origine semble à 90% douteuse et viendrait de Paris pendant l'occupation et serait issue, pour la plupart de ces meubles, de la Möbel Aktion. Donc notamment, il y a cette commode qui porte la marque du château d'Anet et qu'ils ont retrouvée dans le répertoire des biens spoliés comme appartenant aux antiquaires Fabre et Fils. Et en fait, ce qui est assez intéressant en travaillant sur les objets, c'est que derrière, donc là, on ne le voit pas sur la photo, là, c'est une belle photo, il y a toutes les étiquettes, les marques, tout ce qui est noté, en fait, comme sur le dos d'un tableau dont vous parlez, enfin, pour les personnes qui étaient là la semaine dernière, Emmanuelle Pollack, elle a parlé du dos du tableau. C'est pareil pour le dos des meubles, en fait. Et donc, en cherchant dans les dossiers, dans les archives du ministère des Affaires étrangères, on se rend compte que Fabre et Fils a déposé un dossier et que la commode a été vendue le 24 janvier 1941 au docteur Wolf. Visiblement, c'est une vente normale, enfin, qui n'a pas l'air forcée, mais pour le moment, c'est encore à creuser. Il y a plein de points à éclaircir concernant ces meubles, mais vraiment, faut pas les oublier, les objets, parce qu'ils sont témoins, eux aussi, donc, des translocations. Et donc, toutes ces marques, parfois, ça permet de répondre à des questions qu'on n'a pas, en fait, dans les archives, dont la réponse n'est pas dans les archives. Et donc c'est important de travailler sur les deux. Voilà. Je pense que c'est bon, si vous avez des questions.